L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 13h30, ce 5 janvier 1589 au château de Blois, dans la Loire. C'est la dernière résidence de Catherine de Médicis, qui meurt entourée des siens, mais qui est accablée par l'effondrement de sa famille et de sa politique. Elle ne fera pas exception au sort de beaucoup de personnages emblématiques de l'histoire de France. Elle laissera après son décès une image controversée, une réputation plutôt sombre, tourmentée et sans doute aussi injuste. Catherine de Médicis, d'abord reine de France, ensuite régente. Celle que l'on appelle la veuve noire, cette femme à la vie parsemée de légendes parfois sordides et à la réputation machiavélique, était-elle vraiment la plus grande empoisonneuse du XVIe siècle? 13h30, l'heure H de mon récit. Au fond de son lit de mort, Catherine ne peut qu'éprouver des regrets. Elle laisse derrière elle son pays d'adoption rongé par la guerre civile. Quoi qu'en disent ses détracteurs, ce que voulait Catherine de Médicis, c'était la paix. Elle n'aura pas ménagé ses efforts pour y parvenir. Mais le destin de cette reine qui souffrait de sa réputation n'était-il pas écrit d'avance? La vie de Catherine de Médicis s'achève autant dans le trouble qu'elle n'a commencé. À sa naissance, ses parents ne lui survivront que quelques semaines. On dit qu'elle est maudite, car elle est fatale à tous ceux qu'elle approche. Née en Italie, elle arrive à la cour de France alors qu'elle n'est qu'une adolescente. Elle est très bien éduquée et intelligente. Elle est passionnée par les mathématiques, l'astronomie et la langue grecque. Elle est promise à Henri II qui, lui, n'a Dieu que pour Diane de Poitiers, sa maîtresse. À son arrivée en France, Catherine prend le surnom de Duchessina. Elle n'est pas forcément appréciée par le duc d'Orléans, le futur Henri II. Mais son beau-père, François Ier, l'adore. Catherine de Médicis a un nez très long et les yeux qui sortent de leurs orbites. Mais ce n'est pas sa beauté subjective qui intéresse le roi. Ce sont ses capacités physiques. De toute façon, elle n'est pas une grande littéraire. Les mathématiques, oui, mais l'orthographe et la grammaire n'ont par contre jamais été son fort. Il tombit, elle réponda. Sa correspondance est truffée de ce genre d'énormité et elle écrit la plupart du temps en phonétique. Un scribe est d'ailleurs souvent obligé de recopier ses missives pour être sûr que tout soit bien compris. Mais qu'importe, c'est une sportive. Elle monte à cheval comme personne et elle va même apprendre aux cavalières qui l'entourent à monter en Amazone. En croisant les jambes d'un seul côté du cheval, elle peut galoper comme un homme. En plus de l'équitation, elle aime aussi la pêche ou encore la chasse de gros gibier. C'est une femme tenace qui n'a peur de rien. On la retrouve parfois même dans les montagnes à traquer les ours. Elle se promène une arbalète à l'épaule qu'elle dégaine à tout moment pour atteindre des cibles qui se situent à de grandes distances d'elle. Son mot d'ordre était « la dextérité vaut mieux que la force ». Que ce soit pour la chasse ou dans sa carrière politique longue de 30 ans, elle en fait bon usage. Catherine est une capitaine hors pair. On ne la voit jamais arriver, mais elle débarque toujours là où elle est attendue. C'est une grande stratège dans l'âme et une bonne vivante. Elle aime la cuisine et rassembler les gens. Elle avait d'ailleurs tout de suite vu l'intérêt des fêtes somptueuses pour asseoir la politique des Valois. Elle fait venir des danseurs, elle met en place des effets pyrotechniques et demande pour qu'une technologie bien complexe qu'on ne voit nulle part à la Renaissance soit développée pour que la cour en prenne plein les yeux. Et c'est d'une main ferme qu'elle a dirigé son pays d'adoption, assise de biais sur un cheval majestueux, même au milieu des champs de bataille qui ont vu s'affronter deux camps religieux. Mais ce n'est pas cette image que l'on garde de Catherine de Médicis. Cette aisance en politique, sa haine envers Diane de Poitiers ou encore les massacres qui ont ponctué son règne sont venus entretenir sa légende noire. Catherine devient reine dès ses 28 ans. Lors d'une joute où le roi veut montrer sa puissance à Diane, son home n'a pas pu le protéger et la lance de son adversaire lui transperce l'œil gauche. Il décède quelques temps plus tard. Il a avec Catherine trois fils qui lui succéderont un tour de rôle. Mais chacun connaîtra une fin tragique. C'est d'abord François II qui devient roi. Il est marié à Marie Stuart, reine d'Écosse et prétendante au trône d'Angleterre. Son règne s'achève après un an seulement. Il meurt d'une otite. C'est au tour de Charles IX de monter sur le trône. Mais il est trop jeune. Il a à peine 10 ans. Catherine devient alors régente. Le climat en France est tendu. Les guerres de religion font rage entre les catholiques et les protestants. Quand Charles prend le pouvoir à sa majorité, il enchaîne les erreurs et les folies. Il autorise le massacre de la Saint-Barthélemy qui fera plus de 30 000 morts en France. Sa santé fragile l'empêchera de résister à la discorde qui existe en France. Il décède alors qu'il n'a pas encore 24 ans. C'est au tour du fils préféré de Catherine de devenir roi de France, Henri III. Ce dernier arrive au pouvoir accompagné de ses mignons. Il est perçu comme un roi excentrique qui n'est pas assez viril pour être au pouvoir. Alors que les guerres de religion reprennent de plus belle, Henri III sera assassiné seulement quelques mois après la mort de sa mère. S'éteindra avec lui la dynastie des Valois pour laisser place aux Bourbons. Catherine de Médicis avait pourtant 4 fils, mais aucun n'aura survécu pour faire pérenniser la dynastie Valois. Sur son lit de mort, elle est abattue. Elle s'était rendue à Blois pour une réunion des États généraux, mais il fait froid. Nous sommes au mois de décembre, l'air est glacial, les nuits sont longues et Catherine de Médicis prend froid. Sa santé se dégrade à vive allure et elle va succomber des suites d'une pleurésie en ce 5 janvier 1589. Elle meurt avec cette réputation sulfureuse qui ternira son image pendant des siècles. En plus d'être source de malchance, elle aurait employé des moyens pas très catholiques pour arriver au pouvoir. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais quelle est cette légende noire qui l'entoure? Qu'est-ce qui lui vaut ce surnom de Reine Noire? Catherine est italienne. Elle vient de Florence. Elle est donc issue du pays de tous les vices où se mêlent combine et pouvoir. Elle porte fièrement une politique de réconciliation alors que le pays est clivé. Mais elle n'hésite pas à user de sa ruse et de la force pour arriver à ses fins. C'est ainsi qu'on assied son pouvoir au XVIe siècle. On dit aussi qu'elle empoisonne ceux qui la dérangent. On l'appelle l'empoisonneuse en série. Quand elle arrive à la cour de France, à 14 ans, Catherine n'est pas seule. Ses astrologues et apothicaires la suivent. Parmi eux se trouve le célèbre parfumeur Renato Bianchi, dit René le Florentin. Le parfum est très convoité à l'époque, parce qu'en plus de ses arômes plaisants, il permet de ne pas se servir de l'eau qui serait vectrice de transmission de maladies. Bref, les parfumeurs deviennent experts en concoction, mais un usage immodéré entraîne l'utilisation du poison. C'est comme ça que René le Florentin fournira à sa clientèle des substances toxiques à base d'arsenic, de phosphore ou encore de plomb, notamment. Avec l'aide de son parfumeur, la légende raconte que Catherine de Médicis aurait tenté d'empoisonner le prince de Condé avec une pomme de senteur ou encore la future belle-mère de sa fille, Margot. Cette fois, le poison était dans ses gants parfumés. Autour d'elle, le nombre de morts suspectes est florissant. Le duc de Longueville, le cardinal de Châtillon, Coligny, le duc de Bouillon et... la liste est longue. Les écrivains du 19e siècle écriront qu'elle avait même un cabinet des poisons dans son château de Blois. Le plafond de la pièce est orné de fleurs de lys, symbole de la monarchie française, et au milieu se trouve un ouvrage carré où figure le H de Henri II et 2 C entrelacés pour Catherine de Médicis. Mais saviez-vous qu'il n'en était rien ? Derrière les plaintes et les portes secrètes, Catherine de Médicis n'a jamais entreposé ses poisons. Ce cabinet servait à exposer des livres précieux et des œuvres d'art. Elle était l'une des plus grandes mécènes de son temps. Elle protégeait les artistes. À son arrivée en France, elle a fait pénétrer dans le pays des créations italiennes. Les plus belles de la Renaissance. Elle est associée à l'art de l'empoisonnement, mais c'était l'art tout court qui animait Catherine. Aujourd'hui, si les châteaux de la Loire comme Blois ou encore Amboise, le Louvre et les Tuileries sont marqués de l'empreinte artistique italienne, eh bien c'est en partie grâce à elle. De la gastronomie au vocabulaire, en passant par la peinture, Catherine de Médicis a favorisé l'essor d'un art italien prestigieux en France. Mais elle a aussi pris sous son aile des artistes français, de grands peintres ou encore le poète Pierre de Ronsard, dont vous connaissez sans doute le vers le plus célèbre. Mignonne, allons voir si la rose. Mais cette Catherine-là, on ne la reconnaît pas. Pas avant que les livres d'histoire réhabilitent sa vraie nature au milieu du XXe siècle. On appelle aussi Catherine de Médicis la Reine Noire. Après avoir perdu son mari prématurément lors du tournoi qui est venu sceller la guerre entre la France et l'Espagne, elle va aller jusqu'à faire interdire tous les tournois sur le sol français. Et elle décide de porter des habits de deuil. On ne la verra plus que vêtue de noir. Mais pourquoi ? C'est une malédiction qui s'est abattue sur elle. On l'a dit, elle attire toute la mauvaise fortune. En plus de cela, les mensonges, la calomnie, on peut aussi parler de xénophobie car elle est étrangère, viennent renforcer les rumeurs et asseoir sa sombre réputation. On lui attribue tous les malheurs de la France. La faute des guerres de religion lui retombe dessus. Elle doit porter à elle seule l'histoire du XVIe siècle. En définitive, elle doit agir comme un roi. À cette époque, on remet en cause la légitimité des femmes au pouvoir. Catherine doit se présenter comme la veuve d'Henri II, si elle veut diriger. Elle décide donc de rester habillée en noir. La décision est plus politique que sentimentale. Il s'agit d'une technique de communication, finalement. En se présentant comme la veuve d'Henri II, elle prend l'image et le pouvoir du roi. Ce statut devient un atout pour qu'elle puisse se faire respecter. Cela n'empêche pas d'avoir recours à la force. Elle doit se montrer dure et employer des gestes politiques très forts et parfois cruels pour montrer que la monarchie doit être respectée. Sous le règne de son mari, c'était la guerre entre la France et l'Espagne qui faisait vaciller le pouvoir. Après que la France a été terrassée, c'est à l'intérieur du pays que tout se complique. Les Français s'entretuent pour des questions de religion. Les catholiques s'opposent aux protestants au cours de 8 guerres. Catherine, régente, cherche à protéger l'unité du royaume. Elle va donner certaines libertés aux protestants, ce qui apaisera les tensions. Mais en 1572, les guerres de religion reprennent. Des milliers de protestants sont massacrés à travers la France. Alors que s'est-il passé ? Une semaine auparavant, Paris était en fête. On célébrait le mariage de Marguerite, la fille de Catherine, avec le Henri de Navarre qui était protestant. Celui qui deviendra plus tard Henri IV. La tension est montée alors que catholiques et protestants étaient tous conviés à la célébration. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Pendant longtemps, il a été difficile de s'entendre sur le rôle exact de Catherine de Médicis dans ce terrible épisode. Mais à l'époque, elle et son fils sont tenus comme principaux responsables de l'hécatombe. C'est la tentative d'assassinat de Coligny qui fut l'élément déclencheur de cette tuerie. Coligny est un chef protestant. Les protestants sont furieux et réclament justice au roi Charles IX, le fils de Catherine. Ils veulent se venger. Ils sont aux portes du château. Alors qu'à l'intérieur on mange et on boit, de violents bruits retentissent dans la cour. Paris est au bord de la guerre civile entre les Guises, le camp catholique, et les Huguenots, les protestants. Alors que le roi recule devant les protestants, les Guises ont décidé de se retirer de la capitale, ce qui veut dire que la cour est seule face aux protestants qui s'insurgent. Catherine de Médicis est terrifiée. « avec son fils, ils vont décider d'une justice extraordinaire. La reine-mère ne trouve d'autre solution pour protéger son fils et le royaume que de faire valoir son pouvoir en éliminant les chefs protestants. C'est la catastrophe, bien sûr. La tuerie va se transformer en bain de sang et Catherine est élue responsable. Catherine de Médicis est un personnage difficile à cerner. Cette légende noire restera toujours associée à son image et elle viendra ternir son tempérament optimiste, sa grandeur d'âme et sa clairvoyance aussi. Dans l'inconscient collectif, elle incarne la noirceur, le deuil et le despotisme. Elle est perçue comme une reine avide de pouvoir. Mais les historiens eux-mêmes n'ont-ils pas aidé à véhiculer cette réputation? Parce qu'aujourd'hui, sa vraie histoire est remise en question. Dès le XVIIe siècle, la légende de Catherine est faite et se renforce. Agrippa d'Aubigné va écrire dans son œuvre Les Tragiques « Va, commande aux démons d'impérieuse voix, reproche-leur tes coups, compte ce que tu vois, monstre-leur le succès des ruses florentines, tes meurtres, tes poisons, de France les ruines. » Alexandre Dumas aussi fait d'elle une empoisonneuse. Elle aurait tué Charles IX en essayant d'empoisonner son gendre. Le poison était sur les pages du livre qu'elle devait lui remettre, seulement il a atterri dans les mains de son fils. Après cela, c'est la Révolution française qui vient accentuer sa légende sordide. Des rumeurs sont colportées pour tenter de vilipender la monarchie. Sa réputation est encore plus salie et son despotisme est pointé du doigt. Elle serait une reine dominatrice qui cherche à s'accaparer le pouvoir à tout prix. On la voit comme un être machiavélique qui use de ruses extrêmes. Une étrangère qui met à la tête du pays d'autres étrangers. Une femme blessée, rongée par la jalousie. Mais avec un peu de recul, on comprend un petit peu mieux. Elle veut rester ferme pour contrer l'effondrement du pouvoir royal alors que catholiques et protestants s'affrontent dans des luttes sans merci. D'un côté, on lui reproche de donner trop de liberté aux protestants. Et de l'autre côté, elle n'en donne pas assez. Elle doit naviguer entre deux clans et jusqu'au bout, elle aura tout fait pour les rassembler. Elle dépense sans compter pour les amuser, faire des fêtes. Son moyen de gouverner, rassembler les factions qui se déchirent. Il faut danser ensemble. Elle instaure l'unité religieuse. Mais cela ne suffit pas.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'une reine qui a marqué l'histoire, comme peu l'ont fait avant elle. Catherine de Médicis, une reine, puis une régente à la longévité extraordinaire. Celle qui a dirigé la France comme un roi. Son histoire se déroule au cœur d'un pays meurtri par les guerres de religion et sa réputation, même après sa mort, sera ternie par une historiographie particulièrement divergente. Sous la plume des auteurs, sa légende noire s'inscrit dans l'inconscient populaire. Mais comment diriger cette femme popularisée comme une empoisonneuse perfide? Malgré sa réputation, Catherine meurt entourée de l'amour des siens, ce 5 janvier 1589. Qu'en était-il de sa politique? Eh bien, parlons-en. Ce n'est pourtant pas celle de la haine. Elle prône la politique de l'amour. Catherine de Médicis est dirigée par trois choses, le pouvoir, l'union et sa famille. Sa politique, c'est celle de la diplomatie. Quand elle est arrivée adolescente, elle était elle-même le lien qui a servi à rassembler la France et l'Italie jusqu'alors en guerre. Elle a gouverné la France pendant 12 ans en tant que reine et puis en tant que régente de 1560 à 1563. La politique royale prend un tournant radical en matière de religion. La répression doit laisser place à la tolérance si l'on veut établir une coexistence paisible entre les catholiques et les protestants en France. C'est la reine-mère qui met en place cette politique. Seulement, cela va faire escalader les tensions parmi ses détracteurs et cette politique va susciter des jugements contradictoires au sujet de ses motivations, mais aussi de ses effets. Catherine endosse une grande part de responsabilité dans le désordre qui marque le XVIe siècle en France et les pamphlétistes à l'époque, s'en donnent à cœur joie. Celle qui tente de contenter tout le monde est traînée vers la sortie. Mais Catherine de Médicis est une femme tenace. Elle a presque 70 ans. Quelques semaines avant sa mort, elle se battait encore pour que son fils Henri III reste roi de France. Et quelque chose vient bouleverser l'échiquier. Catherine est au château de Blois dans sa chambre. Au-dessus se trouve la chambre de son fils, Henri III. Il a invité le duc de Guise, le défenseur de la foi catholique. Il aspire à une chose, gouverner la France. Il veut évincer tous les protestants et faire régner le catholicisme en France. La politique de la diplomatie de sa mère, il s'en fiche. Nous sommes le 23 décembre 1588, 13 jours avant le décès de Catherine de Médicis. Le soleil ne s'est pas encore levé et le roi demande à une douzaine de fidèles de le rejoindre dans son antichambre. Il va leur distribuer un poignard à chacun. Leur chef, 8 autres complices et le roi restent dans la chambre en attendant Henri de Guise. Le roi se retire. De Guise fait alors son entrée dans la chambre puisqu'il a été convoqué par Henri III. C'est Lombardet. Le duc est percé de coups de couteau. Catherine entend le massacre. Pour elle, cela annonce la fin du règne de son fils. Elle n'entend plus rien, puis les pas de Henri III. Mon Dieu qu'il est grand. Il paraît même plus grand mort que vivant. Le lendemain, c'est au tour d'un autre de Guise de payer la colère du roi. Son corps est même brûlé avant d'être jeté dans la Loire. Et ça ne s'arrête pas là. D'autres membres de la famille passeront aussi. Catherine est dévastée par ce qu'elle sait. Ce bouleversement va sans doute accentuer sa fatigue. Elle devient fébrile. Elle a perdu l'espoir. De ses 10 enfants, 7 ont survécu. 3 sont montés sur le trône, mais aucun ne saura le défendre. Elle faisait pourtant confiance à ce fils, Henri III, son préféré. Il est doux, jovial et il aime sa mère. Mais il a une personnalité ambiguë. Pour le peuple français, il annonce la décadence. Il a des tendances homosexuelles. On dit qu'il est efféminé et ne sait pas diriger. Il met à la mode les pendants d'oreilles. Il s'habille de manière coquette. Il est l'opposé du roi guerrier. Depuis qu'il est devenu roi, il ne cherche pas à se battre. Il s'enferme dans son cabinet. Il n'aime pas les pratiques royales coutumières comme la chasse. Il est vivement critiqué. Mais qu'a-t-il fait ? Se demande Catherine. Lui qui n'était déjà pas bien vu. Henri III n'a pas de descendance. Le duc de Guise est un prétendant au trône. Enfin, il l'était et Henri III est son assassin. En plus de cela, il s'agit d'un crime lâche qui vient discréditer à jamais les Valois. Catherine a tout entendu puisqu'elle se trouvait en bas. Elle sait que tout ce qu'elle a tenté a échoué. Elle aura tout essayé pour pacifier la France et sa famille, mais elle n'y est pas parvenue. Elle entend son fils qui crie « À présent, je suis roi !» Elle va lui dire « C'est bien taillé, mon fils. Maintenant, il faut coudre. » Eh oui, il va maintenant falloir faire face aux conséquences. Catherine s'est battue toute sa vie pour réconcilier les catholiques et les protestants. Elle est sous le choc. Cela annonce le soulèvement des ultra-catholiques contre la couronne de France. Elle avait pourtant tout prévu. Et pour elle, c'est ce qui arrive quand l'un de ses enfants ne l'écoute pas. Elle voulait étendre les Valois aux cours européennes pour que leur pouvoir ne s'éteigne jamais. Cela servait à apaiser les jalousies entre ses enfants autant qu'à asseoir son pouvoir un peu partout en Europe. Mais n'est-ce pas là le devoir d'une reine ? Ses enfants doivent se plier à ses exigences. Elle avait même obligé sa fille Margot à se marier à Henri de Navarre, vous vous souvenez, le protestant. Elle n'a eu de cesse de lancer des messages d'union. Et pour le destin tragique de sa famille, elle a vu juste. Tout était joué d'avance. D'ailleurs, elle a toujours vu juste. Elle a comme caractéristique d'être clairvoyante. Elle est arrivée en France avec ses astrologues. Elle est connue pour s'être fiée aux astres pour connaître le sort du royaume de France. Elle ne se séparera jamais de Ruggieri, son astrologue personnel, qui la suit depuis Florence. Depuis toujours, Catherine de Médicis croit au destin. Ruggieri a eu un énorme rôle à jouer, tant sur le plan privé que sur le plan politique. Il devait dire à la reine-mère si la journée allait lui être favorable ou non. Ruggieri a prédit à la reine la fin de la dynastie des Valois. Celle qui allait lui succéder était celle des Bourbons. On dit qu'il usait de magie. Que dans une pièce avec un miroir, il a fait apparaître la tête des trois fils de la reine destinés à régner. Étonnant. En plus, chacun des visages aurait fait autant de tours sur lui-même que d'années de règne. Son fils aîné, François II, n'a tourné qu'une seule fois. De fait, un an après être devenu roi, il est décédé. Son deuxième fils, Charles IX, aurait lui tourné 13 fois sur lui-même, ce qui correspondait à ses 13 années de règne avant de mourir. Et enfin, le visage d'Henri III va tourner 15 fois. 15 fois pour 15 ans sur le trône, avant qu'il ne le cède à Henri de Bourbon. Ruggieri était l'ombre de Catherine, comme en cette soirée de décembre 1560. Il est 11h du soir, à Orléans. François II, le fils de Catherine, est agonisant. Il a une otite virulente. On lui fait des saignées, mais rien n'y fait. Son état se dégrade. Catherine est au chevet de son fils et elle sent une présence derrière elle. Cosimo, c'est lui. C'est Cosimo Ruggieri, son astrologue. Majesté, la nuit est plus claire que jamais. Le ciel ne demande qu'à vous parler. Dépêchons-nous. Catherine regarde son fils. Ruggieri insiste. « Venez, Majesté, vos serviteurs vous attendent. N'attendez pas le dernier soupir de votre fils pour savoir ce qu'il en sera de votre avenir à la tête du royaume de France. » Catherine hésite parfois à savoir. Son sang se glace. Veut-elle vraiment savoir ce qu'il attend? Jusqu'à présent, les astres ont eu raison. Elle est entourée des meilleurs astrologues. Il y a Ruggieri, mais il y a aussi le célèbre Nostradamus ou Michel de Notre-Dame. Catherine a une passion pour les sciences occultes. Elle lisait des formules conjuratoires pour se donner de la force, mais aussi pour que son époux se tienne loin des femmes. Comme celle qui lui fait concurrence depuis le début, Diane de Poitiers. Elle était certaine que les astres dirigeaient le monde. Nostradamus est célèbre pour ses prédictions. C'était lui qui avait prédit la mort du mari de Catherine, 4 ans avant l'accident sur son cheval lors du combat. Doté d'une imagination débordante, fantastique. Il a nommé des planètes qu'en 1560, personne ne connaissait. Il aurait prédit des apocalypses. On pense à l'arrivée d'Hitler, à l'attentat du 11 septembre ou même à l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. C'est en tout cas ce que les passionnés, comme Catherine de Médicis l'était, disent. Et ses écrits sont extrêmement difficiles à décrypter. C'est sans doute ce style mystérieux qui rend Nostradamus célèbre pour nous, mais aussi pour la cour de France au XVIe siècle. Catherine reprend ses esprits. L'avenir du royaume repose sur ses épaules. Le pays est clivé à cause des haines religieuses entre le camp protestant de Coligny et celui des extrémistes catholiques du duc de Guise. Elle doit penser à ses enfants. Elle doit savoir ce qui va leur arriver. Allons-y, tu as raison. Nostradamus et Ruggieri sont plus que ses astrologues. Ce sont ses médecins et ses conseillers. Grâce à eux, elle est en lien avec le ciel. L'ambiance est feutrée, étouffante même. Ruggieri est vêtu de noir, et les murs autour de lui et de Catherine disparaissent. Il y a une grande table dans la pénombre. Dessus, tout est mélangé. Pierre minérale, plantes, planisphères, parchemins. Et un grand miroir. Un rouet qui tourne. Catherine se retrouve en face du miroir. Voit les visages de ses fils tournés, et après Henri III, elle voit son cousin, Henri de Navarre. « Oh non !» s'écrie-t-elle. « Eh bien si. » Si, c'est un protestant. Catherine porte ses mains à son visage. Elle n'y croit pas. C'est à partir de ce moment-là que Catherine de Médicis a commencé à s'efforcer de pacifier la France, pour protéger ses fils. Elle est influencée par ses prédictions, les horoscopes et, pour conjurer le sort, elle va user de différents moyens. C'est en partie pour cela qu'on la voit comme une manipulatrice. C'est de là que vient son surnom d'empoisonneuse. Malgré ce qu'on peut penser, elle a été une régente exceptionnelle. Elle a guidé ses fils. Et peut-être aurait-elle été victime de sa condition de femme au XVIe siècle. Elle n'a jamais pu détenir tout le pouvoir et ses fils étaient, eux, à chaque fois beaucoup trop jeunes pour devenir rois. D'un bras, elle devait diriger. De l'autre, elle a dû guider ses enfants en tentant d'éviter tous les obstacles qui l'attendaient. Malheureusement, elle n'a pas réussi à faire mentir les prédictions de Nostradamus et de Ruggieri.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Catherine de Médicis, une reine de France qui se démarque des autres reines de son siècle. Sa réputation salie jusqu'au milieu des années 1900 était celle d'une manipulatrice cruelle. Cette reine, aux croyances mystiques et guidée par les cieux, est l'une des personnalités historiques les plus marquantes et les plus robustes. Mais à l'hiver 1588, son destin vacille. La femme forte s'essouffle devant la chute de la dynastie Valois au profit de celle des Bourbons. Henri III, le fils issu de l'union entre Catherine de Médicis et Henri II, est roi. La reine-mère voit décliner son pouvoir. Elle a perdu son influence progressivement. Elle reste auxiliaire privilégiée et conseillère du roi, mais elle n'est plus co-régente. Son fils préféré et elle ne s'entendent plus sur certaines questions, depuis quelques années déjà. En 1588, des dignitaires politiques, pourtant fidèles à la Reine Noire, ont été renvoyés. Henri III tente d'asseoir son autorité pour pouvoir mettre fin à la guerre de religion qui fait rage en France. Il quitte Paris discrètement pour convoquer les États généraux à Blois. Ceux-ci doivent durer 3 mois. Du 16 octobre 1588 au 16 janvier 1589. La reine le rejoint après avoir convaincu les catholiques de venir rencontrer le roi à Blois. La reine-mère est en bonne santé, c'est ce qu'elle écrit dans sa correspondance avec ses proches. Mais nous sommes le 10 décembre et tout se gâte. Catherine est fiévreuse et elle est fort inquiète parce qu'elle a de l'infection. Son fils Henri III est lui aussi tourmenté et peiné de voir sa mère souffrir. Et son rhume se passe tout doucement. Pourtant, Catherine a cru mourir. Le 23 décembre, elle est toujours dans son lit. Henri descend pour lui faire part de ce qu'il vient de faire. Il a tué le duc de Guise qui dirige les catholiques. Catherine le sait déjà. Elle a tout entendu, puisque sa chambre se trouve en dessous de celle de son fils. C'est le silence complet. Henri justifie son acte. Elle est terriblement inquiète. Qu'en est-il du sort du royaume? Les catholiques vont se soulever contre la couronne. Catherine dit ceci. « Mon fils, vous avez mis le royaume en proie. » Le lendemain, c'est le cardinal de Guise qui est à son tour assassiné. Un deuxième catholique, et cette fois Catherine de Médicis, est perçue comme la co-auteure du crime. Nous sommes le 30 décembre. La reine-mère est toujours en convalescence, mais c'est la situation politique qui nécessite un remède. Catherine est toujours aussi inquiète. Son médecin lui dit qu'elle pourra bientôt retrouver une vie normale et reprendre ses activités. Son état est encore meilleur. La fièvre est tombée, mais elle est toujours alitée et elle tousse encore. Les médecins lui demandent de ne pas quitter son lit pour pouvoir récupérer, mais elle ne les écoute pas. Le 1er janvier, l'hiver est rigoureux. Le froid pique les joues. Catherine sort et se retrouve dans cette ambiance glaciale. Elle va à la messe dans la chapelle du château. La pierre est froide, l'air humide. Après la messe, elle ne rentre pas se réchauffer. Elle part rencontrer le cardinal Bourbon qui est dans ses appartements en résidence surveillée. Le cardinal connaît Catherine depuis des années. Il est l'un de ses fidèles, mais il l'accuse d'avoir assassiné les deux Guises. Après tout, c'est elle qui les a convaincus de se rendre à Blois. Catherine est choquée des propos du cardinal. Elle se fâche et les deux se mettent à pleurer. C'est les yeux humides qu'elle retourne dans sa chambre. Elle ne mange rien, elle n'a pas faim. Le lendemain, elle est à nouveau collée au lit. Elle rechute. Son médecin impute son état lamentable à ce que le cardinal a osé lui dire la veille. Nous sommes la nuit du 4 au 5 janvier. Catherine ne pensait pas mourir à Blois. Sa vie entière a été influencée par les prédictions de ses astrologues. Elle était extrêmement superstitieuse. Elle avait une confiance aveugle en Ruggieri et Nostradamus. Elle a toujours été très anxieuse et même sa mort était prédite. Ruggieri l'avait prévenue presque 20 ans auparavant. Elle allait mourir près de Saint-Germain. C'était la chose à ne pas dire. Catherine va tenter d'esquiver tous les endroits qui portent le nom de Saint-Germain. Elle ne va plus depuis longtemps à Saint-Germain-en-Laye, ni à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, surtout pas aux Tuileries en construction à Paris, puisque l'église d'à côté porte le nom de Saint-Germain-l'Auxerrois. A priori, tout va bien pour Catherine de Médicis, me direz-vous. Elle est à Blois. Pourquoi mourrait-elle ? Elle demande quand même à se confesser et à recevoir les derniers sacrements. Elle ne va pas bien. Ce n'est pas son confesseur habituel qui entre dans la chambre. Après s'être confessée, Catherine demande « Quel est votre nom ?» Il répond « Monsieur de Saint-Germain. » C'est l'effroi. Catherine a tenté par tous les moyens de contrecarrer la prophétie de Ruggieri. Elle l'a rattrapée. Nous sommes le 5 janvier. Il est 13h30, Catherine de Médicis décède. Pour certains, la reine-mère est morte de dépit. Mais des rumeurs racontent qu'il s'agit peut-être d'un empoisonnement. Aujourd'hui, la vérité sur Catherine de Médicis est remise en question. Elle n'a pas eu un règne parfait. Elle a commis des erreurs politiques. Ses astrologues ne l'ont pas empêchée de parfois faire les mauvais choix, mais Catherine n'a jamais été reine à elle seule. L'époque ne l'a pas laissé régner en son nom. D'abord reine aux côtés de son mari, puis régente, vêtue de ses habits de deuil. La reine noire a dû maintenir le cap sur son navire à la dérive, avec d'un côté les catholiques et de l'autre les protestants. À 8 reprises, l'équilibre trouvé s'est rompu, entraînant des guerres de religion. Peu de reines ont marqué leur époque comme Catherine de Médicis. On voit aujourd'hui l'ampleur de sa participation dans la vie politique, mais aussi culturelle de l'époque. Elle qui est également la plus grande mécène du XVIe siècle et qui a pris sous son aile des dizaines d'artistes italiens et français de la Renaissance. Aujourd'hui, c'est le vrai visage de Catherine de Médicis qui doit renaître. Déjà pendant son règne, elle est une figure controversée. Elle est victime de la crise religieuse, mais aussi de cette misogynie, de la xénophobie qui marque son siècle. Jamais son autorité ne lui est due. Catherine de Médicis doit se battre pour asseoir son pouvoir et pour se faire respecter. Mais alors, que pensez-vous de Catherine de Médicis ? Quelle image retenir d'elle ? Était-elle une empoisonneuse en série sans scrupules ? Une femme cruelle ? Qui ne se battait pas pour son pays, mais plutôt pour le pouvoir. Où était-elle, cette reine française, aux origines italiennes, qui a œuvré pour pacifier la France et pour protéger à tout prix ses enfants ? Sa légende sombre, qui perdure depuis des siècles, reste dans l'inconscient populaire, mais l'histoire connaît elle aussi plusieurs facettes. Il était l'heure de redécouvrir la reine. Voilà donc pour ce récit que je vous ai raconté grâce à la plume d'Emma Verset.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.